Remettre de l'humain dans nos partenariats. Sonia Baquet s'est allée ce matin à la rencontre des personnes en situation de handicap, accompagnées par la structure Envie, des contrats financés à 50% par la province Sud. Près de 6000 personnes sont présentes à Lifou pour assister au mariage du futur grand chef du district de Lossy. Ce matin, s'est déroulé le mariage civil et religieux. Aucune pollution ni anomalie significative n'a été relevée par les équipes de la province Sud concernant la multitude de poissons retrouvés morts à Yaté le 26 mai dernier. L'inauguration d'un nouveau guichet d'accueil clientèle Calédonienne des Eaux à l'agence Enercal de Dumbéa, c'était aujourd'hui. Les usagers pourront maintenant réaliser toutes leurs démarches en un seul et même lieu. Le point sur la New Caledonia Groupama Race et plus de peur que de mal. Le voilier australien Rush Hour a chaviré cette nuit. Heureusement, l'équipage a été retrouvé sain et sauf. C'est désormais le monocoque néo-zélandais V5 qui est en tête de course. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. On souhaite remettre de l'humain derrière les aides financières. La présidente de la province Sud, Sonia Baquès, a rencontré ce matin les membres de l'équipe Envie. Depuis 2021, la structure accompagne les personnes en situation de handicap dans leur réinsertion professionnelle, Jean-François Baudin.
Faire avec un minimum de compétences et un maximum de motivation, c'est le leitmotiv de cette entreprise qui accompagne aujourd'hui une dizaine de personnes en situation de handicap. Elle propose un contrat de 8 mois, 7 en atelier à travailler la maçonnerie, la couture ou l'informatique, et un mois en pré-emploi. Le dispositif porte ses fruits. Avant 2024, la société enregistrait un taux d'insertion supérieur à 65%, taux qui a chuté l'an dernier. Mais l'accompagnement des collectivités, le gouvernement et la province Sud est resté constant. Aujourd'hui, la présidente de la province, Sonia Baquès, a souhaité rencontrer le personnel et les personnes accompagnées. Selon elle, l'investissement des entreprises doit être aussi important que le soutien des institutions.
Il y a beaucoup de choses à faire. La loi, c'est une chose, mais après, il y a l'envie des entreprises de participer à l'effort en fait, collectif. Et c'est vrai que la difficulté du handicap, c'est qu'il est multiforme. On n'a évidemment pas les mêmes besoins d'adaptation de poste quand on a un handicap physique, psychique. Et donc, souvent, ça fait peur aux employeurs de se dire comment je vais faire, je ne vais pas savoir gérer. Et je pense que cet effort-là, il est souvent récompensé, en fait, parce qu'on a des gens là qui ont envie, qui ont souvent des parcours de vie compliqués, qui ont dû se battre pour en arriver à l'employabilité. Et du coup, quand on fait l'effort d'aller chercher et de dépasser les craintes qu'on peut avoir, on est souvent récompensé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça ne peut pas être porté que par les collectivités. Mais je pense qu'on a intérêt à ce que de plus en plus d'entreprises jouent le jeu d'employer des personnes en situation de handicap qui, encore une fois, ont souvent un volontarisme peut-être plus important que d'autres.
Parmi les 10 personnes employées par la structure, 5 contrats sont financés par la province Sud et 5 autres par le gouvernement. Autrement dit, l'entreprise dépend des aides institutionnelles, comme l'explique la directrice de Envie, Rebecca Frolaminiana.
C'est important pour l'équipe puisque depuis 2024, on a vécu tellement de moments compliqués. La province Sud a maintenu en fait tous les financements pour les contrats d'insertion. Et ça, c'est primordial. Autrement, on n'aurait pas pu continuer l'activité, tout simplement. L'an dernier, on a fini l'année avec un bilan négatif de moins de 10 millions. Donc, c'est très compliqué. Heureusement, la province Sud et le gouvernement ont renouvelé en fait leur confiance pour financer les contrats d'insertion. Et on a aussi obtenu le marché de démantèlement des compteurs électriques EEC. Donc nous, ça nous a permis de maintenir la tête hors de l'eau. Et cette année 2025, on sent qu'il y a de nouveau des marchés qui s'ouvrent, des demandes de commandes personnalisées. Donc on a espoir que notre structure continue à vivre, en fait.
Parmi les personnes avec lesquelles Sonia Baquès a échangé ce matin au cours de sa visite, Souane Kafikaela, 45 ans. Il travaillait dans le BTP avant son accident de travail.
J'ai eu un accident de travail en l'an 2006. C'est compliqué pour moi, franchement, parce que je ne pourrais plus le métier que j'ai aimé depuis mes études. Du jour au lendemain, il faut changer. C'est dur, mentalement, physiquement. J'ai resté pendant 14 ans sans travailler. Et c'est en allant vers une assistance sociale qui m'a remotivé au niveau de ma reconnaissance du travail d'handicap. Et puis voilà, je suis eu un entretien ici à Envie et ils m'ont choisi. Il y a une conseillère qui nous accompagne, un peu plus de connaissances au niveau informatique. Et c'est ça qui m'a permis d'évoluer un peu dans ce domaine-là. C'est grâce à ça que j'ai pu obtenir et arriver à cet stade-là pour pouvoir avoir un stage au sein des entreprises que j'ai mené mes enquêtes métiers. Je sais très bien que ça peut aider beaucoup de personnes dans ma situation ou qui sont nées en tant que handicap, mais qui ne savent pas où aller.
Les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient bénéficier d'une aide à la réinsertion peuvent se rapprocher de la direction de l'emploi et du logement à la province sud.
L'appel du 18 juin commémoré ce matin à Païta, il y a 85 ans, le 18 juin 1940, le général de Gaulle a lancé son appel sur la BBC à Londres. Une cérémonie organisée comme souvent à Païta la veille de la date d'anniversaire. Sur le rang protocolaire, on retrouvait forcément la maire de la commune, Marilyn D'Arcangelo. Après avoir lu une partie de l'appel du général de Gaulle, elle a rappelé l'importance de la transmission aux nouvelles générations.
La transmission de la mémoire, c'est important aux jeunes générations. Il ne faut pas l'oublier parce que cet appel du général de Gaulle résonne encore dans nos mémoires comme une leçon de courage, transmission de fidélité aux valeurs de la République, la dignité humaine, la liberté. Donc oui, c'est important et quels que soient les élus, on se doit de transmettre l'histoire aux jeunes générations.
Cette année, le 18 juin tombe en pleine période de vacances scolaires. Il y avait donc moins de jeunes que les années précédentes. Mais Catherine Merckx, commissaire déléguée en province sud, a tenu à saluer les jeunes sapeurs-pompiers de Païta présents ce matin.
Il y avait quand même les jeunes sapeurs-pompiers qui étaient présents donc, et qui nous ont d'ailleurs accompagnés pour le dépôt de germes. Et c'est toujours important ce passage justement entre nos anciens et nos anciens combattants et la jeune génération pour se souvenir de ces moments clés et de ces dates clés de l'histoire de la France. Il y a bien sûr les cérémonies, mais après il y a tous les musées, les activités, les expositions. Les anciens combattants sont assez actifs d'ailleurs pour transmettre les messages, pour intervenir dans les classes, pour raconter leur histoire, raconter ce qui s'est passé. Il y a plein de façons de se souvenir et pas seulement les cérémonies commémoratives. Et je pense que beaucoup d'associations, notamment d'anciens combattants, se saisissent aussi de ces différents moyens pour passer le message aux nouvelles générations.
Et parmi les anciens combattants et leurs représentants, Michel Mourguet, délégué de la Fondation de la France Libre en Nouvelle-Calédonie, a lu une partie de l'appel du général de Gaulle.
Évidemment, pour moi, c'est capital. Et en particulier, l'appel du 18 juin, parce que à travers les mots, ça transfère, comme disait le général, une certaine idée de la France. C'est pas parce qu'on a été battu qu'on est forcément vaincu. Et que la soumission, l'obéissance, le conformisme, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour une grande nation. Et il a même dit un jour à Winston Churchill, avec qui il s'engueulait régulièrement, il a dit « Désormais, monsieur le Premier ministre, quand vous voudrez parler à la France, vous vous adresserez à ma personne. » Enfin, c'est ça l'esprit du 18 juin. Quoi. C'est à un moment être capable de se lever, avoir la capacité, la faculté de pouvoir, de savoir dire non, sans tenir compte des conséquences que ça peut infliger, ce nom-là, pour la grandeur du bien commun.
Demain, d'autres cérémonies seront organisées sur le territoire, notamment à Nouméa, à 8h30, à la Croix de Lorraine. Direction les îles Loyauté, Li Fu vit au rythme du mariage du futur grand chef du district de Loci. 37 ans après le mariage du grand chef Evanes Boula, c'était aujourd'hui celui de son fils aîné Jonathan qui était célébré dans le sud de l'île. Près de 6000 convives, dont une délégation wallisienne et fidjienne de plus de 80 personnes, sont sur l'île. Après les derniers gestes coutumiers hier, le mariage civil et religieux s'est déroulé dans la tribu de Mou. La majorité des personnes présentes étaient vêtues de jaune et blanc, les couleurs du district. Ils ont donc accompagné Jonathan Boula, le futur grand chef du district, et sa femme Honorine Nasson de la tribu de Luangoni. Les précisions du sénateur de l'RGO, Ludovic Boula, qui est également l'un des petits frères du marié.
Le mariage coutumé, tant qu'il est coutumé, c'est déjà terminé. Et là, c'est religieux et administratif. La délégation wallisienne, c'est nos oncles maternels. Plus de 80 personnes qui sont venues, qui est très important dans la coutume kanak où on peut pas faire ces protocoles-là. Comme voilà, le cycle de la vie, c'est naissance, mariage et deuil. Les oncles maternels, ils sont très très importants. Et je dirais même plus importants que la famille de la mariée. Du coup, l'organisation de l'OSI, il y a un protocole de sécurité en concertation avec la province des îles et la mairie et l'État. L'alcool est interdit. Le protocole vestimentaire, les femmes sont popinées et pas de capuche. Il y a tout un protocole sécurité et voilà.
Un mariage civil et religieux qui s'est déroulé en présence de Jacques Billan, le haut commissaire, d'une délégation du Sénat coutumier, des représentants du gouvernement, du congrès, du président de la province des îles ou encore du maire de Li Fu, Nekone Peun, et de la consul générale d'Australie, Anne Lisiong.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent avoir été choqués par la remise en liberté de Christian Théin. Ils ne sont que 3% à dire que cela ne les choque pas. Notre question du jour, les États-Unis doivent-ils, selon vous, s'engager militairement dans la guerre contre l'Iran ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et notez ce rendez-vous sur notre antenne. Ce n'est pas une surprise. En l'absence de perspective, la Nouvelle-Calédonie demeure confrontée à un climat économique très dégradé. C'est ce que note l'IOM dans sa note de conjoncture du premier trimestre 2025. Nous en parlerons demain avec le directeur général de l'IOM, Fabrice Dufresne, qui sera notre invité à 7h30. L'occasion de scruter avec lui quelques indicateurs qui permettent de jauger de l'état de santé économique du territoire. 17h56, premier pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Cinef au soir, Léana Colombo.
Justice et un procès encore une fois reporté. 3 hommes comparaissaient ce matin au tribunal de Nouméa pour leur implication dans les faits de violence survenus dans la nuit du 8 au 9 mars au 1881 à Nouville. Une bagarre générale avait éclaté ce soir-là, impliquant entre 300 et 400 personnes et faisant au moins 11 blessés, dont 2 graves. Le travail d'enquête de la police a permis d'interpeller 4 hommes, dont 3 majeurs. Ils sont âgés de 23, 25 et 28 ans et devaient être jugés initialement le 11 avril, mais le procès a été reporté à aujourd'hui. Il se tiendra finalement le 10 février 2026. N'ayant pas d'antécédent judiciaire, ils sont maintenus sous contrôle judiciaire. Ils ont, en attendant le procès, interdiction de porter ou détenir une arme, de se rendre à proximité du 1881 à Nouville et d'entrer en contact avec les plaignants et les autres prévenus. Et puis l'auteur de 3 coups de feu ce week-end à Païta, placé en garde à vue. Les faits remontent à vendredi. Il a tiré en direction d'un groupe de jeunes aux stations Shell et Mobil au village de Païta. Âgé de 39 ans, il a justifié son geste par la nécessité de protéger la station. Il sera convoqué au tribunal le 17 décembre prochain dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des violences avec armes et le port d'armes sans motif légitime. On a du nouveau sur le phénomène de surmortalité de poissons observé dans le Grand Sud. La forte marée basse et les précipitations de la semaine précédente seraient en cause, Jean-François Baudin.
Le 26 mai dernier, des milliers de sardines flottaient mortes à la surface de l'eau au niveau de l'embouchure de la Yaté. Un phénomène qui avait inquiété les habitants, notamment ceux de la tribu de Wao située non loin et qui avait alerté les autorités compétentes. La province sud en charge de l'environnement est donc intervenue pour réaliser des prélèvements et analyser la composition des poissons et de l'eau. Aucune pollution ni anomalie significative n'a été constatée, peut-on lire dans un rapport du service de gestion et de préservation des ressources. En revanche, les conditions météo auraient favorisé cet épisode de surmortalité, explique Bastien Morvan. Il est le directeur adjoint de la 3DT, la Direction du Développement Durable des Territoires.
Effectivement, les résultats qui ont été obtenus par le biais de ces prélèvements n'ont pas conduit à pouvoir conclure au fait qu'il y avait une origine, une pollution particulière qui avait eu lieu liée à l'activité humaine, mais plutôt un phénomène climatique qui se serait conjugué à un épisode de grande marée basse. Et à ça s'ajoute, sur la semaine précédente, le 26 mai, de fortes précipitations sur la région de Yaté, donc autrement dit un fort apport en eau douce. Et les deux conjugués ont conduit finalement à un abaissement du taux d'oxygène dissous dans l'eau, et ce qui peut provoquer chez ce type d'espèces, les sardines, un stress intense et une mortalité brutale.
La province sud ne réalisera donc pas de nouvelles analyses. La mairie de Yaté a quant à elle décidé de maintenir l'interdiction de méniade dans la région jusqu'à nouvel ordre.
Adumbe a un point d'accueil unique et pratique pour faciliter les démarches de la Calédonienne des Eaux et Enercal. Depuis hier, les usagers proches de l'agence Enercal à Coutio ont pu constater l'apparition d'un guichet dédié à l'accueil des clients de la CDE. Ce partenariat permet désormais de réaliser en un seul et même lieu ces démarches pour l'électricité, mais aussi l'eau. Une solution plus pratique pour les clients, mais aussi plus économique, explique Luc Bourgade, directeur général de la Calédonienne des Eaux.
C'est toujours une demande des usagers d'avoir un seul point, d'avoir une simplification dans leur parcours clientèle. Et puis c'était aussi une demande de notre part, parce qu'on peut ainsi faire des économies, donc les redistribuer sur la partie des tarifs qui sont appliqués, d'une part. Et puis d'autre part, c'était aussi un point important, puisque nous étions pas très loin, mais notre agence avait été détruite durant les événements du 13 mai. Et donc, on devait réinvestir ce quartier. Ça se fait aujourd'hui matériellement par notre présence qui commence ici avec, dans les locaux d'Enercal.
Environ 500 personnes se rendent chaque jour dans cette agence de Coutio. Et ce nouveau guichet permettra donc au plus grand nombre de réaliser ses demandes et démarches concernant l'abonnement eau potable ou encore d'être accompagnés dans la gestion de leurs contrats et de leur facturation. Une initiative qui favorise la redynamisation du centre de Dumbéa qui avait beaucoup souffert des exactions de l'année dernière, souligne le maire de la commune, Johan Lecourieux.
C'est une action nouvelle, on a le cinéma, on a des commerces, on a des restaurants qui ouvrent. Là maintenant, on a des services de public de proximité avec l'eau, l'électricité. Donc pour l'ensemble des Dumbéens, c'est très agréable d'avoir le cœur de ville, le cœur de Dumbéa qui revit petit à petit. Et donc la prochaine étape, ce sera l'arrivée du siège social du FSH d'ici quelques mois. Donc on aura vraiment maintenant une vraie activité qui permet de revivre pleinement au cœur de Dumbéa.
Une inauguration qui s'est également faite en présence de Jean-Gabriel Fagé, directeur général d'Enercal. Ce partenariat entre Enercal et la CDE a déjà été réalisé auparavant. Les clients de la FOI peuvent en effet se rendre dans l'agence Enercal pour réaliser toutes leurs démarches. De même à Boulou-Paris, c'est l'OPT qui accueille en son sein des guichets d'Enercal et de la Calédonienne des Eaux.
RRB 18h02.
En métropole, Emmanuel Macron a accusé les réseaux sociaux d'être à l'origine d'une épidémie de violence. Le chef de l'État veut les interdire aux moins de 15 ans pour lutter contre une désinhibition de la violence. Nous avons parlé ce midi dans notre magazine citoyen de cette surexposition aux écrans et des risques qui sont liés notamment sur le développement personnel des plus petits. Karine Tricot est orthophoniste à la DEPASS et elle note des changements radicaux chez les jeunes qui utilisent de manière déraisonnée les téléphones, tablettes et qui regardent trop la télé.
J'exerce depuis 29 ans. Quand j'ai commencé à travailler, je ne voyais pas d'enfants qui arrivaient à l'école en maternelle sans langage. Maintenant, c'est courant, quel que soit le milieu socio-professionnel, quel que soit l'endroit. Et on sait qu'un enfant, pour apprendre à parler, il doit être dans l'interaction avec des humains, avec ses parents, avec ses proches, et qu'un écran ne permet pas d'apprendre à parler. Des problèmes de troubles de l'attention, d'hyperactivité, pareil. Les parents ont le sentiment que l'enfant va être mobilisé devant l'écran, qu'il va être attentif. Et en fait, il ne va pas apprendre à développer son attention volontaire, celle dont on a besoin pour apprendre des choses, celle dont on a besoin pour se poser des questions, pour raisonner. Et on a ces enfants qui sont agités. On voit des enfants qui ont des manières de se comporter qui peuvent être proches des troubles du spectre de l'autisme, alors qu'en fait, ils n'ont pas de problème neurodéveloppemental. Et cette absence d'interaction avec d'autres personnes font que les enfants ne développent pas le contact visuel, ne vont pas vers les autres, s'isolent complètement. Et lorsqu'on arrête les écrans, on voit un enfant qui se redéveloppe normalement.
Pas d'écran avant 3 ans et très peu jusqu'à 6 ans. Ce sont les recommandations des autorités sanitaires. Il faut aussi organiser l'utilisation des écrans à la maison, selon Emmanuel Rivet, psychologue et responsable du programme Prévention des addictions à l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie.
Il faut réussir à se mettre des règles. Il faut préserver des espaces, des écrans. Parmi les recommandations qu'on peut faire, il y a celles qu'on appelle les 4 pas notamment, qui disent pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Parce qu'il faut qu'on puisse garder un œil aussi sur le contenu auquel il est exposé. Mais aussi pas d'écran le matin, pour pouvoir préserver justement ces ressources attentionnelles qui vont être utilisées à l'école. Si on arrive, après avoir passé 1h30 devant les dessins animés, effectivement, on n'a plus la capacité à s'investir dans les apprentissages. Pas d'écran le soir avant de se coucher, on l'a dit, parce que la fatigue va être extrêmement importante, le sommeil va être modifié, et le sommeil, c'est l'équilibre de tout chez l'être humain. Et puis, pas d'écran pendant les repas, pour justement favoriser effectivement les interactions. Le repas, c'est un moment important. C'est un moment d'échange en famille où on va pouvoir faire le point sur la journée, où on va pouvoir parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire demain. Donc il faut vraiment essayer de privilégier des usages qui n'ont pas d'impact négatif sur le quotidien.
Pour Fabienne Cadoca, trésorière du SFA-CGC, les établissements scolaires calédoniens doivent généraliser une mesure expérimentée dans certains collèges de métropole, le zéro téléphone dans les établissements.
Je pense qu'ils auraient dû réagir beaucoup plus tôt. Il n'est jamais trop tard, c'est sûr, il n'est jamais trop tard pour réagir, mais ça va être plus on traîne, plus c'est difficile à redresser là-bas. Nous, on le dit toujours, c'est pas parce qu'en métropole, ils autorisent ça, ils autorisent ici, qu'on doit le faire en Calédonie. En Calédonie, on peut aussi, nous, prendre nos propres textes, nos propres lois, et nous, on est pour l'interdiction des téléphones dans les établissements, hein, par exemple, au niveau de notre syndicat. Quand je dis l'interdiction des téléphones, c'est quand vous avez un souci, il n'y a pas de problème. Vous appelez depuis le collège, ou depuis le lycée, vous appelez vos parents. C'est ce qu'on faisait avant. Donc, ou alors donner des téléphones, des vrais téléphones, quoi, des vrais téléphones, pas des smartphones. Quand ils sont jeunes, il n'y a pas de raison de leur donner un smartphone.
Sylvain Onze, président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves, est lui revenu sur le fléau du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement.
On a beaucoup de remontées parce que quelque part, les parents sont inquiets parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas quoi faire pour ça. Je veux dire, là, quand ça se passe notamment dans les collèges et lycées, les gamins ne viennent pas toujours raconter tout de suite ce qui se passe. Moi, j'ai connu des jeunes filles qui étaient harcelées et qui ont mis un temps fou avant de venir interpeller leurs parents pour les dire, voilà, on harcèle, etc. Voilà, les photos, etc. Mais tout ça, ça se passe en secret, quoi. La jeune fille a son téléphone, elle ne le montre pas à ses parents. Elle met du temps quand elle se sent vraiment en danger. Et là, les parents doivent être vigilants. Le comportement de l'enfant change. Quand il est harcelé sur Internet, le comportement change immédiatement. Et donc, il faut que les parents soient très, 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 vigilants, qu'ils regardent un peu ce qui se passe chez l'enfant, et notamment quand il y a des changements comme ça.
Et en cas de doute concernant une surconsommation des écrans, vous pouvez contacter le service Déclic de l'Agence sanitaire et sociale, un magazine citoyen à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc. 18h passé de 7 minutes, seconde pause avant de voir l'actualité dans le Pacifique, puis le sport avec un point sur la New Caledonia Groupama Race.
Besoin de vacances? Envolez-vous avec le cabinet d'assurance AssurePac. Gagnez un séjour pour deux au Vanuatu, vol aller-retour plus 3 nuits avec petit déjeuner. Pour jouer, rendez-vous dans l'une de nos 3 agences avant le 30 juillet, BD Pêcheur, Pacific Arcade ou VKP. Et ce n'est pas tout. Repartez aussi avec une remise sur votre prochain contrat d'assurance. Alors, prêt à tenter votre chance? Plus d'infos Facebook, AssurePac NC.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et c'est l'actualité dans la région. Le Premier ministre néo-zélandais entame une visite de 3 jours. C'est la première fois que Chris Luxon se rend en Chine depuis son accession au pouvoir à Wellington en novembre 2023. Et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Chris Luxon a déclaré avant son départ que durant son voyage de 3 jours à Shanghai et Pékin, il va s'engager à poursuivre une politique réfléchie dans un contexte mondial agité. C'est une période assez instable, a-t-il admis, et il est donc important, du point de vue de la Nouvelle-Zélande, que nous naviguions dans des eaux manifestement agitées pour parvenir à une situation qui nous est favorable. Chris Luxon, qui est accompagné d'une délégation de 28 chefs d'entreprise, va surtout mettre son voyage à profit pour rencontrer le président chinois Xi Jinping et son premier ministre Li Qiang. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Passons au sport avec de la voile et on a frôlé le drame cette nuit sur la New Caledonia Groupama Race. Le navire Rush Hour, alors en tête de la course, a en effet chaviré. Deux balises de détresse ont été activées peu après 1h du matin. Une opération coordonnée entre les sauveteurs en mer, les forces armées en Nouvelle-Calédonie grâce à leur avion Guardian et la direction de course a permis de les sauver, explique le directeur du COS-NC, Nicolas Chomard.
En début de nuit, vers 1h20 du matin, en fait, le COS a d'abord reçu des balises de détresse satellitaire personnelles qui émettaient des signaux de détresse. Donc là, on a coordonné bien évidemment tout de suite l'opération. On a d'abord tenté de joindre le navire. Le problème, c'est que le bateau, en fait, il émettait plus aucun signaux. On n'arrivait pas non plus à le joindre. Et donc, au bout de quelques heures d'investigation, donc le COS a sollicité l'engagement de l'avion Guardian. En lien avec la direction de course, on a aussi décidé de dérouter le voilier Romance qui était en course, qui a permis ensuite au lever du jour, entre 7h30, de confirmer que celui-ci était bien retourné avec des personnes sur la coque. On n'avait pas de personnes disparues, c'était surtout ça l'enjeu, et pas de blessés, ce qui a permis enfin dans un dernier temps de l'opération, suite à l'engagement de l'hélicoptère Puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie, d'aller rechercher les personnes, de récupérer les naufragés et ensuite de les ramener à terre.
Nous ne connaissons pour le moment pas la raison de ce chavirage. Un point doit être fait dans la soirée entre les skippers et la direction de course. Dans le reste de l'actualité de la New Caledonia Groupama Race, ce matin, l'équipage Blade Runner Néocéan a souffert d'un problème de safran et a dû déclarer forfait. De son côté, le monocoque Too Far Out a lui aussi abandonné à cause d'une avarie sur le SPI survenue au moment du départ. Et en tête de la course, on retrouve désormais le monocoque néo-zélandais V5. 18h11, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Nicolas.
Oui, alors cette nuit, sous un ciel souvent voilé, des nuages bas accompagnés d'averses faibles circuleront sur l'est, la pointe sud et plus rarement aux Loyautés. Ailleurs, le temps sera sec et le ciel sera généralement dégagé. L'alizé s'orientera est-sud-est et se maintiendra généralement entre 15 et 20 nœuds. Il dépassera localement les 20 nœuds sur la pointe nord avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Les températures évolueront entre 15 et 21 degrés et jusqu'à 13 degrés dans l'intérieur des terres. Demain matin, le ciel sera souvent très nuageux et de faibles averses déclenchant par endroits sur l'est, l'extrême sud et aux Loyautés. Ailleurs, le temps sera sec. L'alizé d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Localement, 10 à 15 nœuds, ce sera sur l'ouest.
Et merci beaucoup, Nicolas. Il est 18h12, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.